masquée son histoire un peu. Alors pour avant de vous lire les extraits que je me suis permis de choisir dans une œuvre assez colossale, j'ai préparé un petit travail pour vous parler de cet auteur. Et surtout déjà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de parler de Joël Bousquet. Alors j'aurais pu faire un raccourci en faisant une corrélation avec le fait qu'on est en pleine fête des morts, donc hier, et de la Toussaint aujourd'hui. C'est un raccourci qui pourrait être une facile association d'idées et qui pourrait presque même être une bêtise. Si c'était un simple raccourci comme ça, en trait. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc j'aurais pu faire un petit raccourci comme ça sur la corrélation entre l'événement national de la fête des morts et Joël Bousquet. C'est effectivement un raccourci, mais que je vais essayer de vous expliquer plus sensiblement, parce que quand on se penche sur la vie de cet auteur, on se rend compte que c'est un homme qui, au-delà de son rapport à l'écrit, a éprouvé, je pense, physiquement ce qu'on appelle la mort toute sa vie. Alors on est sur un jour de fête religieuse, certes, mais pas uniquement, puisque dans toutes les époques et dans de nombreux endroits du monde, du très archaïque au soi-disant très civilisé, il y a quelque chose d'essentiel de la vie à célébrer à travers la mort, tout un théâtre de symboles, de fonctions, de paradoxes sacrés, de métaphorisations qui se jouent entre ces deux forces contraires, la vie, la mort, incarné sous la forme de pulsion par les deux dieux grecs, Eros et Thanatos. Alors on sait que de nombreux poètes, peintres, philosophes, musiciens se sont laissés pencher par la question, faisant de cela la base de leur réflexion, mais aussi beaucoup d'hommes, de femmes, de façon bien souvent moins lucide ou plus innocente, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux énergies-là, la vie et la mort ? Par exemple, je me souviens d'une anecdote d'un enfant qui m'a demandé un jour combien il y a d'habitants sur la Terre. Alors, j'ai tenté une réponse un peu chaotique, parce que je n'avais pas refait le calcul depuis quelques temps. Depuis au moins quelques bombes, famines, maladies et autres criminalités quotidiennes, je lui ai répondu à approximativement, quitte à me tromper de quelques milliers. Ma réponse ne semblait pas lui convenir, je doutais alors de m'être vraiment trompée de plusieurs zéros. C'était le cas puisqu'il m'a rétorqué « Oui, mais avec ou sans les morts ?» Alors à ça, bien sûr, je me suis tue et je me tais encore. C'est un vaste débat, un long gouffre d'inconnu, d'angoisse et de lumière pourtant. Joël Bousquet, donc, dont il est question, lui, voulait mourir. Mais il a échoué. Il est resté vivant et disait lui-même « Il faut vivre, vivre, rien que vivre, en entretenant la collaboration perpétuelle avec la mort. » Joël Bousquet voulait ou a voulu mourir un jour. Je vais tenter de vous livrer quelques explications. Très jeune, Bousquet, vivant à Carcassonne, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, est un révolté, un provocateur des codes et des morales. Il est pressé de devenir adulte, supporte mal son image physique qui dessine trop ses traits d'enfant. Il ne supporte pas de ne pas être considéré comme un homme quand son cœur le porte déjà à tous les extrêmes de la passion. Ses écarts de conduite et ses allures de dandy le font très mal voir dans la petite ville de province où il vit. Il supporte mal Carcassonne. Ce pauvre Carcassonne sue l'ennui. Il se heurte à un conformisme provincial qui le fera souffrir toute sa vie. Déjà, donc à l'âge de 15-16 ans, il s'enferme dans sa chambre avec des jeunes filles et de la drogue. L'endroit devient un lieu reconnu comme peu fréquentable, voire interdit. Déjà, il entretient des correspondances qui, si elles élèvent son esprit, rendent d'autant plus difficile son enfermement provincial. En 1914, la guerre éclate. Joël Bousquet a 18 ans. Oppressé par ce moule dans lequel il ne parvient pas à entrer, il veut tuer en lui le bourgeois qu'il pourrait devenir au nom d'un appel qu'il ne sait pas encore reconnaître comme la fureur poétique. Son père, médecin, est au front. Joé entame des études, mais l'ennui le terrasse à tel point qu'il décide de devancer l'appel de quelques mois. Il dit « Je ne trouvais pas d'autre issue à une situation morale qui me semblait chaque jour plus étouffante. Dès ce moment-là, j'ai vu que la vie ne pouvait rien me donner, hors la satisfaction passagère d'en bafouer les mœurs. Les choses ne traînent pas, il s'engage le 10 janvier 1916 dans l'infanterie. Ce n'est pas un choix facile, le voici au milieu d'hommes très durs, austères, qui sont pour la plupart condamnés de droit commun. Très vite, Bousquet les apprécie pour cela. Il n'hésite pas à se porter volontaire pour des missions dangereuses qui lui valent le surnom d'Aiglon. Le chef d'escadron, avec qui Bousquet liera de très forts liens, interdit aux soldats de s'arrêter auprès des blessés lorsqu'ils montent au combat. Cette mesure apparaît au jeune homme plus dure que la guerre elle-même. Il rapporte les paroles du chef. « Un soldat est la proie de son devoir. Il ne s'appartient pas. » Une conversation avec un mourant le rend à lui-même et décompose sa volonté. À l'homme qui ne craint que la mort, n'imposez pas la vision de l'agonie. Bousquet continue et multiplie les actes de bravoure. Il se conduit en héros, en presque fou. Il est décoré un an après, à peine, de la médaille militaire. Il y voit, je cite, « tout ce qui, dans mon cœur d'adolescent, demandait à vivre, à crier. » Il trompe la mort. Un épisode troublant, pardon, se situe le 2 juin 1917. Il l'a évoqué une seule fois, à l'occasion d'un questionnaire lancé par André Breton. Comme étant l'une de ces coïncidences fatales reconnues si souvent par lui comme clé de sa vie. À la question « Pouvez-vous dire quelle a été la rencontre capitale de votre vie ?» Joé Bousquet a répondu « Celle d'un homme dont j'ai causé la mort. » Et le poète raconte comment, un soir du mois de juin 1917, sur le chemin des Dames, il se trouvait en faction avec ses camarades face aux Allemands à quelques mètres d'eux. Les combattants d'un côté comme de l'autre étaient figés dans une attente angoissée. Soudain, contrairement aux ordres et à toute prudence, il prit un fusil et se mit à tirer sur les Allemands en tuant au moins un. La réponse ne tarda pas. L'ennemi répliqua par un assaut sanglant au cours duquel son régiment fut décimé et son ami, le sergent Canet, blessé à la colonne vertébrale. Honteux de ce qu'il avait déclenché, Joé Bousquet fit ce qu'il put pour panser son ami et l'emporter. Malgré tout, le sergent mourut le lendemain. « Tuer, c'est se tuer », écrit-il en conclusion à cet aveu. La guerre continue. Bousquet, toujours aussi volontaire. En juillet 1917, il est blessé en Lorraine. Convalescent, il se drogue, traîne avec des prostituées, dont une sera retrouvée morte d'une overdose un matin dans sa chambre. Puis il poursuit son repos à Béziers et un soir de permission, il se rend au théâtre et rencontre Marthe. La première rencontre avec l'amour, impossible. Il dit « La colère de ma mère quand elle aurait su que je voulais épouser une divorcée. Vite, je veux retrouver la guerre, le front, de nouveau je veux m'échapper. » Il y retourne donc, encore plus motivé, encore plus fou. De toute cette période, on retrouvera une immense correspondance avec Marthe, de plus en plus amoureuse, mais de plus en plus désespérée. Et puis, lors d'une attaque, le 27 mai 1918, à Vailly, « Moi, le lieutenant Bousquet, je ne sais pas pourquoi, alors que tous reculaient, j'ai compris que c'était fini et je suis restée debout. » Une balle. Une balle dans la colonne vertébrale, ma moelle épinière coupée, mes jambes paralysées, une unique balle mettra 32 ans pour me tuer. Seul, couché dans mon lit, j'ai atteint des hauteurs telles que j'ai creusé le ciel. Enfermé dans ma chambre, enfermé dans mon corps, je rayonne dans cette lumière immobile. Le mal comme le bien a son ciel en moi et je connais la voluptueuse satisfaction de n'être médiocre en rien. Chaque jour, je redécouvre que j'ai été blessée, que je suis blessée, et je dois à cette blessure d'avoir appris que tous les hommes étaient blessés comme moi. Je suis née le 19 mars 1897 à Narbonne. J'ai été touchée par une balle à la colonne vertébrale le 27 mai 1918 à Vailly sur le front. J'avais 21 ans. Qui suis-je? Telle qu'on me voit, flottant entre mes deux personnes, celle de mon cœur et celle de ma mort. Car il faut être sincère jusqu'au bout. J'ai été blessée à 21 ans et j'étais déjà un type perdu, complètement perdu, incapable de gagner sa vie, pris par l'amour de toutes les drogues, incapable de prendre sur lui, d'écrire ou même de lire. tout cela aurait fini par un coup de revolver. Ma blessure a fait tourner les choses autrement. Je suis comme un homme de tous les vents que la solitude et le silence auraient fait prisonnier. Et puis la vie va continuer dans cette chambre de Carcassonne. La lumière de la lampe, les rideaux tirés, tapis dans un coin, tassé, les yeux ouverts, avec cette douleur trop forte qui remonte dans le corps. Une pipe d'opium à portée de main pour lutter contre, survivre, surmonter, passer par-dessus, vivre en creux, savoir dans sa chair que tous les feux sur la mer chantent qu'un homme est seul, après tout, et seul avec ceux qui le m'aiment. Et ne pas s'isoler, être plus que jamais parmi les hommes un homme très différent, un homme chien. Plus qu'un homme, moins qu'un homme, le dernier des hommes et le meilleur des chiens. Dans cette maison de la rue de Verdun à Carcassonne, cette maison au volet toujours clos, il y avait son lit, immense, avec le coussin réceptacle de son corps, un petit guéridon rond plein de médicaments, une table pour les manuscrits et la bibliothèque basse, quelques tableaux et des lampes toujours allumées. De 1925 à sa mort, le soleil n'est jamais entré dans cette chambre. Quelques amis et amis, oui. Dans cette chambre, parfois jardin des oliviers, parfois cénacle des courages et des combats contre la médiocrité du monde, parfois boudoir, il était là, merveilleux gisant. Cette chambre à la fois coquille et haute était sa peau nouvelle, sa map monde d'imaginaire, sa furieuse tanière. Dans cette tanière, il attendait Aragon, Gide, Hans Bellmer, Éluard, Paul Valéry, André Breton, le grand ami René Nelly, qui lui parlait de l'amour courtois et bien d'autres encore qui venaient se faire adouber dans la chambre close au parfum. Car cette chambre dévouée à la vie de l'esprit était devenue l'antichambre des lettres françaises. Tapis dans la douleur, Joé Bousquet aura réussi à habiter la douleur, lançant ses innombrables correspondances avec les peintres, les poètes. Il aura, si ce n'est sauvé le monde, du moins sauvé le sien. Les miracles de l'amitié l'auront tenu debout et éloigné ses ténèbres. Dans sa chambre, l'oubliette aérienne, disait-il, il se sera entouré de toiles qui l'aidaient à vivre. Courageuse sentinelle, il aura fondé des planches de vivre, il aura voulu faire œuvre de vie et devenir poète tous les jours un peu plus. Sa grande exigence, commune à celle de son ami René Char, l'aura amené à faire de ses nuits des nuits sacrées. Il disait, ce siècle présent est foutu. S'il n'est pas fait contrepoids à sa nuit immense par l'assurance de quelques individus qui tiennent de leur volonté ou de leur vie le privilège de voir et d'éclairer, je ferai ce que je pourrai pour lui, mais je le crois foutu. Jamais il ne comprendra que l'homme est un cœur ou rien, c'est-à-dire courage, amour. Joé Bousquet, comme Char, se veut donneur de courage et d'amour. Joé Bousquet voulait mettre dans son écriture toute sa vie et toute sa personne. Offrir par son exemple non une leçon de stoïcisme, mais une leçon de vie, un creuset de force vitale. Par sa souffrance, sa blessure, il aura presque de manière christique, dans la chambre refuge et torture à la fois, inversé les plaies et entonné un immense hymne à la vie. Pourtant, il sait que personne ne sait se mettre à la place de celui qui a été douleur. Cette blessure du 27 mai 1918 reçue à Vailly sur le front de l'Aisne, cette blessure sans limite qui le laisse paralysé à vie, cette douleur devenue son corps même, il la transcendra par la poésie. Il sera allé vers la vérité de la vie par sa volonté et par son vertige. Lui, qui se sera fiancé avec cette douleur, se sera marié avec la vie. C'est le désastre obscur qui porte la lumière, disait-il. Joé Bousquet était donc là, au milieu de sa chambrette, avec ce sourire qui éteint les lumières, avec son visage en averse et sa moelle épinière adoubée par une balle. Il devenait songe, il guettait l'autre matin qui mettait en péril sa nuit blanche. Il ne pleurait presque plus, et son ombre revenait vers lui, lourde de ce qu'elle avait vu au dehors. Elle lui redisait tout, à l'oreille, les bruits et la lumière de la ville, derrière les murailles de son château fort, les jupes des filles sous la tramontane, les parfums du temps. Parfois, il s'interrompait pour donner à manger à sa douleur qui était à ses pieds. Il la flattait, lui caressait la tête, elle, qui ne voulait pas s'endormir. Poète, ce que tu aimes t'emportera le cœur. Il ne resterait de toi que ta poussière, mais ta souffrance sera ta personne. Ce don de sa douleur au monde, par l'Eucharistie des mots, est troublante. Joé Bousquet semble nous dire « Mangez mes mots, vous me mangerez aussi ». Bousquet est dans ce qu'il appelle l'outre-voir, et il veut que nos regards aussi s'éclairent. Il se prenait parfois pour une pierre échouée, mais qui connaissait le cours des rivières. Il se méfiait des spectres de midi qui promettaient la vérité, car tout ce qui parle de la vérité accuse la poésie. La poésie qui, pour Bousquet, est un sens de l'être et surréalise le rêve. La poésie est un appel nocturne hors de l'activité des hommes. Elle se cache parfois dans de drôles de petites comptines. Son ombre est sous la terre, ton pas la fait pleurer. Oui, mystique à la recherche d'un frère d'ombre, à la recherche d'une clarté qui change tous les mots, le corps petit à petit se casse. Avoir écrit tant et tant des lettres innombrables, des poèmes, des romans, des journaux, avoir tant lutté, avoir tant cherché, et cette balle qui continue son œuvre, cette douleur qui empire est l'opium. L'opium qui me drogue, seul remède à ma souffrance, à ces crises d'urémie insoutenable. Mon corps était retranché de la vie. Par amour pour elle, je rêvais d'abord de le détruire. Cependant, les années qui me rendaient mon infirmité plus présente enterraient mon intention de me supprimer. Blessée, je devenais déjà ma blessure. J'ai survécu dans une chair qui était la honte de mes désirs, alors ma voix a surgi, elle a nommé, elle a convié et dévoyé cette brisure. Je veux recueillir mon néant à l'ombre d'une réalité digne de la lumière et forger de mes mains un objet qui efface mes traces. Joé Bousquet n'était pas la pleureuse mettant sa douleur en sautoir, mais un phare d'existence. Il n'impose pas sa blessure, il s'impose à la douleur. Il tresse la lucidité du siècle, l'amitié du monde. Il fait entrer sa blessure dans son cœur, il est devenu sa blessure. Il dit « Ma blessure existait avant moi, je suis née pour l'incarner. Mon corps et mon église, j'en ai fait mon cheval. » Devenu l'intrus de son propre corps, il avançait dans les songes et puis dans l'amour. Et il savait cela de la vie, la certitude à communiquer, que nous ne faisons pas notre vie, mais que notre vie nous fait. Il aura communiqué dans son rôle de gisant magnifique ses vérités de vie. Joé Bousquet est mort le 28 septembre 1950 à l'âge de 53 ans, laissant une œuvre foisonnante mais curieusement totalement inachevée. Mais ses copeaux, ses étincelles, toutes ses aumônes du soir sont une forme de salut à tous ceux qui seraient perdus sans la poésie. Il dit « La poésie est le salut de ce qu'il y a de plus perdu dans le monde. » Les morts se voient en rêve, mais on dirait qu'au-delà de la tombe, ils ont continué à vieillir. Les morts nous quittent, ils vont mourir ailleurs. C'est une tentative de présentation, ce qui n'est pas évident parce que c'est 53 ans de vie résumée en quelques minutes.
C'est toi qui l'as écrite ?
Oui, à partir de ce livre, Martine m'a prêté, entre autres. Voilà, je vous conseille. Et puis des recherches que j'ai faites, cher Marc, sur Internet. Voilà. Après, on pourra en discuter un peu. Si... J'ai préparé quelques extraits. Donc il y a effectivement une œuvre importante de ce poète. Il y a deux écrits qui ont attiré mon attention. Le premier s'appelle Le meneur de lune, qu'il a écrit en 1946, donc 4 ans avant sa mort. Et puis le deuxième s'appelle Traduit du silence, en 1941. C'est encore une fois en continuité ma sélection. Blessée, je devenais déjà ma blessure. J'ai survécu dans une chair qui était la honte de mes désirs. On ne souffre pas beaucoup des malheurs qu'on n'aurait pas eu la force de concevoir. Je suis entrée dans ma vie étroite avec une âme de voluptueux. Et bien que devenue plus insensible, j'ai senti au lieu de penser. La ruine d'un homme se mesure à ce qu'il est, non à ce qu'il perd. Quel est ce monde où je ne peux pas me libérer sans avoir envie de pleurer sur moi? L'individu veut se connaître. Cela signifie-t-il qu'il entend renouveler la connaissance ou l'étendre jusqu'à lui? On dirait vraiment que l'exister est le point final du connaître. Quand on te demande de te connaître, il te semble qu'il s'agit pour toi de creuser la nuit qui s'est faite sur ta personne, et comme tu ne peux pas savoir comment tu es fait, d'aller au fond de ton ignorance. Chacun de nous est caché dans son personnage. À son idée de la vie, il ne manque que la vision exacte de ce qu'il est lui-même, et il ne s'ajoutera au courant de l'existence que par un effort extrêmement aléatoire de l'imagination. Son moi n'est plus le produit de son être, et dans son idée de ce moi, sa pensée est la rivale de son être. Son être de chair est la déroute de sa conscience. Au milieu des passants, des arbres, de tous les objets qui enferment dans leur structure une épreuve de ce moi indivisible qu'il est lui-même, il traîne le frisson d'un moi espéré, un rêve perpétuel dont la figure précise est toujours devant ou derrière lui. Parlons de lui comme s'il était condamné. Ôtons-lui la parole parfois. On se trompe sur un homme tant qu'on ne retranche pas de sa personne ce qui fut son espoir. Que sur les êtres, les choses et les faits, mon regard à jamais soit seul avec mon cœur. Un an après, une femme de chambre me trouva prise au piège, jouant cependant entre les bras de ma nourrice qui venait de mourir subitement. Tout ce que j'avais vécu donne une idée horrible de l'existence. Cependant, à mes propres yeux, ma vie n'aura été que la douceur de vivre. Je n'habitais pas ce monde, mais le regard des yeux les plus purs. Mon moi n'était pas en moi. Il traversa tout pour venir me chercher dans les ruines de mon corps. Les hommes m'ont cru malheureux. Ils voyaient mes plaies avec leurs regards dont ils étaient l'horizon. Mon être est sauf de tout ce que je suis. Je travaille pour empêcher mes jours de le recouvrir. J'affranchirai ma vie de son apparence quotidienne. En tout, la proie de ce qu'il est, mais écrivain comme par oubli et ne consigne en rien qui m'engage l'occasion de montrer que le langage est la beauté même. On le croyait désespéré, il n'était qu'espoir, on le dit fort, il n'est que faiblesse, on le suppose sauvé, et si le salut existe, il est perdition. Que son corps fasse une si grande ombre sur lui ne l'empêchera pas de se transporter au large de ce corps et de le regarder avec les yeux de jour, il se reconnaîtra dans un éclat de rire. On ne peut poser que l'on est sans penser aussitôt « Que ne suis-je ? Je suis la damnation d'une existence au comble de son être, l'endroit de sa défaillance où la vie tourne à l'espoir parce qu'une ombre mortelle lui a enfin laissé un peu d'elle-même à imaginer. Je suis la plaie d'un être immense qui grandit en moi, la conscience d'un homme un peu plus grand dont je n'incarnerai que la déchéance. Et peut-être, ces sentiments ne sont-ils que les signes de ma déchéance ? L'homme répond de tout ce qu'il n'est pas avant d'être le peu qu'il est. C'est sa grandeur et son désespoir de se savoir au-delà de toute notion responsable de son propre souffle. Je revoyais un immense portail dans le vent d'un village en ruine. Comment devenir le salut d'une vie qui, de sa seule image, me faisait oublier que j'étais vivant? Je voyais les hauteurs bleues où s'élèvent les grands vols d'été. J'étais un paysage d'hiver, sous le froid, où le courant d'une rivière menait des oiseaux morts. Je n'étais que prison, que solitude, mais cependant espoir parce que j'étais douleur. Je ne cherchais pas ma vie dans les jours, la vie est avant les jours, et s'y révèle par une certaine façon d'associer les faits, de les soumettre les uns aux autres. J'ai voulu dépendre d'une vie fermée sur moi et non ouverte sur le rêve de ma personne. Je parle depuis longtemps. Je ne suis pas le commencement, mais le souffle de mes souvenirs, et c'est aussitôt que je les entends qu'ils deviennent ma parole. Le souvenir m'a devancé dans la solitude où je me réfugie pour le revoir. Je le reconnais sans me reconnaître en lui. Je le remettrai au monde, peut-être, s'il ne me regardait pas dans les yeux. Nos aspirations d'écrivain sont le pressentiment d'une beauté ensevelie dans les choses. La poésie n'est pas un attribut du poème, elle est l'horizon dans l'âme de ce qu'on ne voyait aspirer qu'à la mort. Les larmes sont un autre être au cœur d'enfant qui n'a pas pu prendre notre place. Tout ce qui s'éloigne, c'est en nous qu'il s'éloigne. Et continuer à vivre, c'est découvrir dans notre cœur un espace infini que la tristesse escomptée incendie des plus vigilantes lueurs. De même que, dans un visage, le rayon bleu des yeux nous retient, il y a, dans des nuits d'amour, des lumières couleur de mer auxquelles on était insensibles, mais qui, par la hauteur qu'elles avaient au-dessus du présent, sont demeurées intouchées par le temps. Et, à mesure qu'il passait sur nous des années, paraissait s'approcher de notre solitude, prête à nous retrouver dans l'instant mortel où nous nous perdions pour toujours. Nous ferons l'expérience du néant. Nous saurons qu'il n'est pas l'absence, mais un amoncellement de choses tuées. Il faut que le néant soit l'œuvre de l'homme. L'homme est un revenant. C'est dans ses actes qu'il est le plus près de la réalité à laquelle son être de chair est entièrement dérobé. Son œuvre est un fragment de l'être dont son être n'est que le songe. Chacun obéit en aveugle à celui qu'il sera. Mon âme n'a pas à devenir, elle est ma fin, et quelquefois ma ruine. Pour avoir rêvé dans mon corps que l'espace n'était plus, elle est le zénith de ce que je croirais devenir, la cime où je me porte dangereusement quand je crois me penser moi-même. Instrument aveugle de celui qu'il porte en son corps, l'homme arrière est la proie d'une étoile qui l'attire sans la voir et qui se voit dans ses larmes. Tu n'as pas de nom pour désigner Dieu, tu les as tous pour le chercher. Quelle dérision! Incarner le mal sous sa forme périssable et devenir l'hostie de la laideur universelle, horreur d'être amour quand on ne sent plus Dieu en soi. Notre être intérieur n'a pas de limite, il libère tout ce qu'il nomme. Notre langage n'est jamais langage d'un seul homme. C'est parce que je parle que j'ai deux êtres en moi. L'âme ne sait pas dire « je ». L'homme, broyé, craint de nommer sa propre douleur comme s'il savait que tout ce qu'il éprouve a été ramassé dans la boue. L'instant qui ne m'apporte pas un enrichissement ouvre en moi une blessure. Toutes les folies sont des états de grâce. Nos plaisirs tournent à l'enchantement, nous n'accomplissons rien qui ne soit au-delà de quelque chose et qui, n'ayant plus de lien à ce qu'il est lui-même, ne soit au large de tout. Ne jamais former en amour que des souhaits dont on rougisse. Où ne poserais-je pas mes lèvres? Mon baiser idéalise ma bouche et ta chair m'a chassé de mes yeux. Quel temps est-ce donc? La solitude se connaît en nous, il n'y a plus que ce que nous faisons pour nous voir. Détachés de tout, suspendus à ce qui nous attache, entrés vivants dans l'absurde pour lui faire échec. Tout ce qui est humain est gracié, et nous sommes cette grâce quand notre être devient notre croix. Est-ce moi, ce gros vulgaire qui rit de son bonheur et presque le bafoue, incapable de porter des joies données par l'amour? Il va sombrer dans une parodie grossière de son ascension, et sa bienfaitrice n'aura qu'à le voir grotesquement vêtu d'un habit de sa femme et dansant comme un ivrogne pour le rejeter de sa route. Et l'air, tandis que ce gros jobard s'anime, se durcit comme s'il y brillait le reflet d'une larme. Oui, je voulais que le monde fût la splendeur de mes pressentiments. Tout ce que j'attends m'aurait attendu. La vie aurait été un aspect de mon âme. Dans ce fragile espoir, mon existence se poursuit dans la peur du moindre bruit. C'est le privilège des hommes, quelquefois aimés, que leur sincérité se méfie des paroles. Il leur semble que les mots appartiennent à l'imitation de l'amour. Nous nous sommes séparés du monde parce que nous le sommes de nous-mêmes. une blessure n'est que cette séparation, et c'est parce que nous sommes blessés que nous ne pouvons aimer qu'en blessant. Un mot, le plus doux de tous, et qu'il n'y a qu'à proférer pour que la parole ait sa source au large de la voix. Ce mot, que toute vision prolonge, c'est un appel. L'homme sait qu'il existe. Il se conçoit comme la source de son existence, mais aussi comme son lieu. Il dit « Je suis, le monde est » et ce n'est pas le même verbe, parce qu'il pense « Je suis je, le monde est le monde ». Pourquoi escamoter le contenu du verbe le plus riche de tous? Si vous dites « La maison brûle, la forêt brûle », vous ne voyez que le feu dans sa nature illimitée. Même si vous dites « Une allumette brûle », elle qui mettrait le feu à la forêt. Et vous croyez que si l'homme existait seul, le monde n'existerait pas? L'homme qui conçoit son existence la voit comme un point. Il croit être une parcelle du tout et non sa lueur. Quelle absurdité! La guerre. La guerre demain, frayeur, désolée, peur de revoir sous des traits inconnus la catastrophe d'où je suis revenue brisée. Je n'ai plus supporté le chant nocturne des eaux quand il a cessé d'être la voix d'un monde heureux. Même le vent ce soir ne parle qu'aux arbres gémissants. Ce qui respire veut imposer son existence et non pas sa pensée, se conformer à la vie de ceux qui ne respirent pas. J'avais fondé mon bien-être moral sur la conviction qu'il était le gage du bonheur que je voyais autour de moi. Ces sentiments étaient inconnus de tous et même de moi qui y puisais ma vie, à mon insu. Dans les joies que je ne partageais pas, je goûtais une sensation exaltante, celle que mon sang les avait acquises. J'étais la part de conscience et le consentement personnifié de quelque chose qui était le don de la vie. C'était des joies que je pouvais éprouver sans les partager, jouissance qui n'aurait pas été si forte si elle n'avait pas épuisé l'expérience de la liberté. La grandeur de ces faits n'est pas ce qui m'a passionné pour eux. Elle n'est intervenue que pour m'arracher à la commune mesure et me révéler des sensations qu'on a si vives que dans l'amour et lorsqu'on ne sait plus lequel on est, de celui que l'on supprime ou de celui qu'on lui substitue. Le retour de ce qui m'a rendu misérable m'a éclairé et désespéré, la guerre et la mort. Ainsi, j'en suis sûre, par l'union de ce qu'elle termine et de ce qu'elle inaugure, doit donner magnifiquement à l'être le contrôle de ce qu'il n'est plus. Des trous dans ma conscience, je ne sens même pas que je reviens à moi. Il me semble que pour dire j'étais, je devrais cesser de dire. Je devrais cesser de dire je suis. Je ne sais pas d'où la guerre est sortie. Les hommes à qui elle a été imposée n'en connaissent pas davantage l'origine. Est-ce la guerre ou la génération de la guerre qui est le malheur de ce temps? Nous sommes nés, marqués de ce signe atroce. Le conflit ne pouvait qu'éclater puisque nous voilà tous ses victimes. La guerre est une partie de nous-mêmes. Elle est ce qui nous manquait tant qu'elle n'était pas notre épouvante. Ah, nous qui étions nés pour avoir la peur de ce que nous sommes, ajoutons-nous le drame qui, sans nous, serait resté une chimère. Nous l'appelons la guerre pour nous persuader qu'il pouvait être évité. Un de ces drames que l'on nomme dans un monde et qu'on soit dans un autre. La pensée et le nom, c'est-à-dire la peur de la guerre, et la guerre ne se rencontrent jamais. L'art est un besoin. Le besoin créé par la satisfaction de tous les besoins et qui, fondé sur l'être même, est un besoin de vivre. L'homme, nébuleuse, est à rendre réel. La règle à lui fournir est tout son moyen d'existence. La vie n'est pas dans ton attente. Quand tu la nommes, tu ne fais que rêver d'elle. Elle marche dans les paroles que tu écoutes, t'observe dans la vision de ses traits qui seront ton amour si tu n'y prends pas garde. La vie est dans le parfum qui dispense l'oubli d'un monde auquel tu te croyais égal. Ce qui fait la beauté de la vie, que l'on imagine, qu'elle n'est pas. On ne comprend qu'à la longue pour ne plus l'oublier. Nous avons une âme où chaque objet, au lieu de n'être que lui-même, dépasse son image et dissout son nom pour devenir une source de possibilités illimitées. Aussi, ton logis, tes meubles, tes amis, ils sont en même temps que ton bien, les clés d'un univers imaginaire. Ou bien tu te fais mal avec cet univers fictif, ou tu le fuis dans la réalité dont il est la paraphrase. Tu te heurtes à lui, tu te brises. Tout ce que tu touches est souillé par les images que tu lui préfères. Il faut que tu prennes, dans ton imagination, la place de ces mirages qui te font tant de mal. Le réel se brise à sa nudité, mais ils sont, eux, la vanité du réel. Seulement, ces mirages libèrent une immensité intérieure dont tu es libre de t'accroître. Partir, s'enrichir, ne te laisse pas piper à ces appâts. Ce qui est beau, c'est qu'on en puisse rêver, et que ta conscience enfermée avec toi puisse se tapisser de ces vues splendides, leur prêter sa capacité qui seule t'intéresse et dont tu dois faire un asile pour ta personne. Ce qui est beau, c'est que tu sois à ton gré, demain, ou un écrivain vidé, ou une bête curieuse, ou l'homme capable de dominer ce choix et aussi haut que sa vie dont il a atteint merveilleusement ses limites en rapetissant sa personne. La vie est toute, dans chaque individu, comme l'océan dans une vague. Dieu est en chacun de nous. Cela veut dire que dans chaque personne, le nombre des jours vécus forme le même total illimité. Il faut, à chaque instant, incarner ce total si éclatant que tous les objets du monde viennent, dangereusement, pour notre imagination, s'y mirer. Il faut l'incarner au lieu de briser la glace pour voler à l'étalage. Ce qui t'advient, tu l'avais souhaité. Ton enfant est mort de vœux que tu formais dans l'ignorance et dont l'accomplissement était à ce prix, il est mort de ta façon de concevoir ton existence. Nous sommes faibles et neufs devant notre malheur. Mais nous avons voulu, du fond de notre corps obscur, un avenir qu'il nous apporte et nous cache. Toute créature souhaite plus loin qu'elle ne sait. Ses paroles, sans être entendues d'elle, prient les figures qu'elle aime aux plus beaux yeux du monde. Elle voue ses heures d'éternité sans soupçonner de quel martyr ils sont enseignés redoutables. Pleure, pleure s'il te plaît. Tes déboires sont le pain quotidien d'une âme noire et terrible qui soutient ta volonté et suspend tes défaillances à ses faibles étoiles. Crois en tes sens. Une sorte d'allégresse s'éveille dans les détours obscurs qui t'emportent brisés vers une cime à atteindre. Dans la plus amère douleur où tu es déjà la conscience de ta force, tu pressens ce qu'elle fera de toi. On dirait que tu mesures dans une ivresse une plénitude que tu avais reniée pour venir au monde aspirer à elle. Des dettes, des maladies, des deuils. Les mêmes dettes pour tous, les mêmes deuils. À ton tour de payer, de pleurer leurs larmes, tu entres dans leurs maux et force-toi de les faire tiens. Ils grêlent sur les moissons, les tiennes n'ont pas été épargnées. Tu clames que cela n'arrive qu'à toi, comme si tu avais attendu de cultiver l'avoine pour te savoir vivant. Aurais-tu par exception vu le jour dans les emprunts que tu as dû contracter? Es-tu nié de ta fièvre? Ta ruine t'a-t-elle mise au monde? Ne va pas graver ton nom sur des malheurs qui n'ont pas Dieu pour te connaître et qui traversent d'un même pas la vie de tous les hommes, indifférents à leur cœur et suspendus à la course d'un astre mort. Le même gémissement, vieux comme la mer, passe à travers les chaos qui, d'un an à l'autre, nous réconfortent ou nous brisent. Nous enfonçant à chaque pas, nous progressons à travers le même désert de sable et de sel que nos parents ont foulé avant nous. Ils ne gardent pas la forme de ce qui nous avait menés à travers lui. Qu'un bonheur te soit rendu, un ami enlevé, ces événements se rapetissent sous tes pas. Ils se levaient sur les cendres de ceux qui les avaient subis avant toi. Leur vouer ta vie serait te renoncer et entrer vivant dans la matière qui n'est pas où l'on croit, mais dans le chaos qui décrit sa prétention à la vie. Ne confonds pas ta vie avec les douleurs qui la remplissent. Ton enfant est mort hier, vieille histoire. C'est un fait si mort que tu ne pouvais le voir quand tu t'orientais vers lui, attiré par ta propre vie qui se faisait sur lui plus resplendissante. Tu marches, sans le savoir, dans une clarté que rien d'humain ne sépare de toi. Tu as choisi tes malheurs en choisissant tes forces. Tu les as voulu avant de te connaître. Tes yeux prenaient le jour à sa source. Ta vie a dû se détruire pour les approcher de lui. Tu t'es voulu tel que tu es. C'est un marché avec l'absolu dont ton existence doit payer le prix.